Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de notre émission mensuelle On vous aide sur Radio Crésus. Nous sommes en présence de Maître Cathy Neubauer. Bonjour Maître.
Bonjour.
Michel Knoll est également présent. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également en plateau Régis Alter, juriste et directeur adjoint de Crésus Alsace. Bonjour.
Bonjour.
Sans plus attendre, nous allons passer au premier appel. Donc, je vous rappelle vite le principe. Nos auditeurs qui se trouvent en situation de surendettement nous appellent pour exposer leur situation. Et nos juristes, Maître Cathy Neubauer, Michel Knoll et Régis Alter, sont là pour répondre à leurs interrogations. Nous avons Adrien en ligne. Bonjour Adrien.
Oui, allô, bonjour. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Adrien.
Bonjour monsieur.
Adrien, je vous invite à exposer votre cas et à poser des questions. N'hésitez pas à parler clairement.
Alors mon cas est que je suis depuis 2007, je développe une activité dans la vente directe et qui concerne à vendre des biens via le consommateur, le particulier. Une activité lucrative par rapport à son chiffre d'affaires, d'où j'étais commissionné par un grossiste. À l'époque, je me suis fait assister d'un comptable, d'un expert comptable, pour me guider correctement dans tout ce qui était statut et comment gérer mon entreprise, moyennant un coût tous les mois de l'ordre de 250 euros de frais comptables. Il s'est avéré qu'au bout d'une année, à la discussion du bilan, suite à un statut de salarié indépendant, donc société indépendante, où il m'avait suggéré de cotiser à la RSI avec un bilan qui s'occuperait de me faire un bilan. Il s'est avéré qu'en fin d'année, au bilan, je dégageais un bénéfice de 26 000 euros. Alors moi qui faisais confiance à mon comptable, n'étant personnellement pas comptable, me disait tu gagnes de l'argent, les cotisations sont calculées sur ton bénéfice, et il s'avérait que ces cotisations étaient de l'ordre de 3000 euros par trimestre, sachant que je rentrais des commissions entre 3 et 4000 euros par mois. Donc en finalité, j'avais personnellement un bureau chez moi où je travaillais, une voiture où il n'a pas pris les frais kilométriques pour diminuer mon bénéfice, ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pris le taureau par les cornes pour voir où était le problème. Ben, mes 3000 euros que je rentrais étaient juste bons pour payer mes frais, payer les différentes caisses. Et à un moment donné, pour vivre, j'ai pas pu payer les caisses et ni plus rien. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai 80 000 euros de dette. J'ai dû tout arrêter. Je me suis retrouvé ouvrier et voilà, aujourd'hui, je suis dans une impasse. Les huissiers frappent à la porte, essentiellement l'huissier de la RSI qui vient avec des sommes astronomiques parce qu'il y a des montants d'office puisqu'il se réfère sur mes résultats de 2007-2008. Voilà, le comptable, lui, voulant plus rien faire parce que je ne le paye pas, donc je me retrouve dans une impasse incroyable, quoi.
Bonjour, voilà. Bonjour Adrien.
Bonjour monsieur.
Michel Knoll.
Monsieur Knoll, bonjour.
Voilà, donc votre cas est très intéressant et symptomatique d'une société où tout fonctionne très bien. Sauf qu'il ne faut pas être à son compte, qu'il vaut mieux être fonctionnaire, salarié ou profession RSA. Je sais que vous êtes un lutteur, vous êtes un type qui a déjà très bien agi dans la vie pour monter et des affaires et gagner son argent. Vous avez tout reperdu, mais je crois que vous n'êtes pas encore tellement âgé, vous avez début cinquantaine. Donc, vous allez rebondir. Évidemment, quand on choisit ces intervenants extérieurs, aussi bien experts comptables qu'avocats, il faut faire drôlement attention parce qu'on peut tomber dans des pièges. Et ça, on l'apprend aussi que par la pratique. Donc, vous avez déjà payé votre pratique. Donc, vous êtes un homme aujourd'hui très riche parce que vous savez beaucoup de choses que vous avez concentrées dans ce que vous payez. Bon, la solution à votre endettement, n'est-ce pas, c'est pas le plus grave. Nous le réglerons ensemble. Vous en sortirez. Et donc, le plus grave, c'est de se remettre en toute confiance sur les rails. Et je pense que vous y arriverez. Donc, il faut, au cours de cette année, nettoyer, n'est-ce pas, les écuries, afin que vous puissiez remonter à cheval en pleine confiance. Et vous reprendrez effectivement la voie du succès et de la réussite que vous méritez. À l'avenir, il faudra faire attention sur le choix de vos partenaires, parce qu'il est vrai que quand on dégage un résultat dans une profession libérale, eh bien, RSI, c'est quasiment du 35%. Ce qu'on ne sait pas quand on n'est pas à son compte, et tous les gens qui défilent le savent pas non plus. Et c'est toujours ce qui m'énerve moi le plus, parce que je connais la peine de tous ceux qui s'assument par eux-mêmes. Et dans notre société, on n'a pas appris à s'assumer par soi-même, mais on a surtout appris à réclamer tout le temps et ne jamais rentrer effectivement dans le voie de respect de ceux qui osent. Car aujourd'hui, il faut surtout des chevaux de trait qui veulent tirer encore la charrue pour donner l'emploi à d'autres. Donc, Monsieur Acker, votre problème, il est quasiment résolu. Il faut juste maintenant que vous ayez le moral pour surmonter cela. Et même l'avocate Cathy, elle pourrait pas vous en rajouter plus. Elle voit ses problèmes au quotidien, je présume. Donc, voilà. OK. Ben, Adrien, je vous remercie. Vous avez encore une question?
Non, ma question est... Je vais faire tout pour me battre, pour m'en sortir. Je reviens juste à ce que vous vouliez dire au niveau des 35%. À l'époque, je parlais à mon comptable, je disais, écoute, c'est pas possible. Je rentre 3 000, je dois payer 1 500. Oui, mais moins vous gagnerez en chiffre d'affaires, plus la cotisation sera importante. Alors,
votre expert comptable était un con, il y en a partout, hein, vous l'avez appris. Ouais. Et le mieux, voilà. c'est pas de le tutoyer. Vous étiez sans doute trop proche, donc il disait il n'a qu'à payer, hein, et puis terminé.
Voilà, mais c'était un peu ça. Il m'a dit bon, le résultat fait que tu gagnes de l'argent, donc il faut payer. Mais voilà. Pour vivre, je n'en avais pas.
Quoi. Bon, vous étiez pas aussi bon sur ces plans-là, et à l'avenir ça change, monsieur. Ok, au plaisir,
monsieur
Adrien.
Je vous remercie.
Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Et à bientôt,
au
hein. Au revoir,
à bientôt,
Adrien.
Au revoir, monsieur.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Crésus. Nous avons un nouvel appel. Françoise est au bout du fil.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Françoise.
Bonjour monsieur.
Alors, vous allez bien?
Oui, écoutez, ça va. Ça va.
Voilà.
Je vous téléphone en fait parce que j'ai une question.
Oui.
Mon mari était en entreprise individuelle.
Oui.
Et en fait, il a dû fermer l'entreprise et il a bénéficié d'une liquidation judiciaire.
Très bien.
Par contre, j'ai un petit souci, c'est que j'ai été cautionnaire de tous ces crédits et je voulais savoir ce qui allait se passer pour moi maintenant.
Ben c'est bien, en femme fidèle, vous êtes caution, c'est parfait. C'est très, c'est très fusionnel la caution.
Oui, exactement.
Et donc, c'est une preuve d'amour, madame. Donc, votre mari est un petit artisan parmi tant d'autres qui a eu le courage de se jeter à l'eau. Mais hélas, je crois bien qu'il a eu un petit accident qui s'est mis en travers, n'est-ce pas, de la réussite de sa petite entreprise. Donc, c'est de suite le pépin, parce qu'un artisan n'est pas protégé au même titre qu'un salarié. Il n'a pas de maintien de salaire, il n'a pas droit à grand-chose. Au fond, l'artisan, c'est un saltimbanque, vous voyez. Donc, votre mari est un homme qui est très bien, aussi 30 ans. Il est fort, il est puissant, il est intelligent. Mais il s'est heurté à ce mur de toutes ces choses qu'il a dû découvrir et qu'on lui a jamais appris.
Oui, exactement.
Et en plus, la maladie est un élément qui peut nous frapper tous. Chez nous, il y a aussi une avocate Cathy, il y a notre directeur... adjoint, donc, et juriste, entre le directeur adjoint et la Cathy, ben, le directeur adjoint est mieux placé que la Cathy. Même une avocate, aujourd'hui, elle peut être en faillite demain. Bon, il faut donc qu'elle arrive à faire des honoraires, sinon, effectivement, l'affaire s'arrête, hein. Mm-hmm. Et elle est dans la même situation que le petit artisan. voyez, toute cette différence qu'on nous enseigne pas dans l'école, on nous apprend plutôt beaucoup d'autres conneries, surtout à beaucoup rouspéter, mais plus à respecter. Mais donc, votre cas, madame, il faudra qu'on s'en occupe à la loupe, parce que serait dommage qu'on vous laisse dans les marécages, n'est-ce pas?
Oui.
Vous voudriez pas nager comme un petit canard là-dedans, hein?
Non.
Même si votre mari est puissant, de toute façon, lui, maintenant, il est hors course, et donc vous avez envie de le rejoindre.
Oui, bien sûr.
Eh bien, c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, attendez maintenant que l'orchestration se mette en place, et dès lors, vous venez nous voir, et puis on réglera ça.
D'accord,
pour que vous soyez libéré. Et pour l'instant, je crois que vous avez des enfants aussi.
Oui, j'ai trois enfants, dont un nourrisson.
Eh ben, dites donc, vous pouvez encore faire un troisième en attendant.
Un quatrième, non, ça suffit.
Quatrième, vous avez un autre en cours.
Non, j'ai dit on en a trois et maintenant ça suffit.
Ah, vous avez trois?
Oui, on a trois enfants, oui.
Pour 30 ans, c'est pas mal, hein?
Oui.
Mais c'est bien, c'est une bonne démographie française. Merci, madame.
Ben, je vous en prie.
À bientôt.
Beaucoup.
Au revoir, bientôt. Françoise.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Crésus. François Loss, ancien ministre et député rapporteur de la loi portant réforme du crédit à la consommation, nous a rejoint. Nous avons un nouvel appel. Julie est en ligne. Bonjour Julie.
Oui, bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer votre situation?
Oui, donc actuellement je suis en situation, donc ça fait un an que j'ai tout perdu. Quand je dis tout perdu, c'est-à-dire ma maison, mon commerce que j'ai dû vendre rapidement. Donc, ce qui fait que je suis actuellement totalement sans revenu. Donc, sans revenu, je m'expliquerai. Donc, tout cela est parti donc en 2008, après séparation et divorce. Donc, avec mon expert comptable, on a trouvé la solution qu'il fallait que je fasse un prêt relais, évidemment. Donc, j'avais décidé de vendre la maison. Voilà, donc j'ai fait un prêt relais à ma banque que j'ai depuis des années. Et donc, ça s'est passé en septembre 2008. Et disons, la crise financière, comme tout le monde sait, est apparue. Donc, je pense que c'est ça qui a motivé surtout, donc ce harcèlement donc au niveau financier par rapport à la banque. Hein. Donc, tout a commencé d'abord par une vingtaine de rejets. Donc, fin 2008, début 2009, une vingtaine de chèques et que j'ai immédiatement pu régulariser, évidemment. Mais ce qui m'a mis en interdit bancaire. Donc, on m'a bien conseillé de rester comme ça, ça valait mieux pour moi. Donc, moi, je pense que j'étais assez naïve de continuer comme ça. Je me suis débrouillée pour, malgré que c'était dur, quoi. Entre-temps, j'ai essayé toujours de vendre ma maison. Et donc, de ce côté-là aussi, ça a traîné un petit peu vu la crise financière. Mais c'était une maison qui était quand même d'une valeur de 230 000 euros à peu près. Donc, le prêt initial que j'avais fait à la banque, prêt relais sur 2 ans, était de 120 000 euros. Donc, aucun risque puisqu'ils avaient pris l'hypothèque, quoi. Et la maison était payée, hein, autrement. Hein. Et donc, ça s'est enchaîné. Donc, j'ai travaillé pendant des mois en interdit bancaire. Je me suis débrouillée. Donc, j'avais un petit commerce, un petit restaurant de 26 places depuis 12 ans. Et le pire est arrivé donc en octobre 2009. Mes comptes ont été supprimés. Donc, quand je dis mes comptes, à cette même banque, j'avais le compte professionnel. J'avais pas droit au débit. Et mon compte personnel, qui était un petit peu débiteur. Mais voilà, donc... Donc, compte fermé, on ne sait pas pourquoi. Donc, premier choc, qu'est-ce que je fais? J'ai un commerce, compte fermé, des cartes bancaires, qu'est-ce qui va se passer? 8 jours après, j'ai reçu un courrier du tribunal comme quoi on allait donc faire une vente forcée de mon immeuble, donc de ma maison, sous 8 jours, à compte, sauf si je remboursais donc les 120 000 euros plus les frais de cette banque. Et donc, il restait à peu près encore à peu près 2 petits crédits en personnel qui valaient à peu près 7 000 euros. Voilà, donc 8 jours pour régler tout ça. Donc, vous pensez bien que c'était l'hécatombe. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, immédiatement, avocat pour arrêter la procédure. Donc, ça s'est passé en 2009, octobre. Le premier, donc impossible de dialoguer avec la banque. J'ai essayé plusieurs fois. On m'a pas répondu, et quand on m'a répondu, allez ouvrir un compte ailleurs. C'est tout ce que j'ai pu tirer de ce souci, quoi.
Alors, Julie, Régis Alter.
Voilà, donc, donc entre-temps, ce qui s'est passé, donc, il y a une instance, donc, au tribunal de Strasbourg, depuis plus d'1 an. Donc, par rapport à la responsabilité de la banque et de la mienne, évidemment. Donc c'est reporté à chaque fois.
Oui, Julie.
Il demande le report.
Vous m'entendez, Julie?
Oui.
Oui, Régis Alter,
oui.
Directeur adjoint de Crésus Alsace. Donc,
oui, j'aurais dû peut-être le couper.
Non, c'est très bien, vous avez très bien expliqué votre situation. Alors, oui. Quel était votre commerce? C'était dans la restauration, si j'ai bien compris?
Oui, c'était la restauration. Et j'avais une petite restauration depuis 12 ans avec une vingtaine de places. Hein.
D'accord. Et donc, il y a eu effectivement à un moment donné peut-être des difficultés financières, comme vous disiez, au niveau de la crise.
Oui, bien sûr, des difficultés financières. Donc, voilà. C'est vrai que c'est parti par rapport à la séparation au divorce. Donc, j'étais un peu affaiblie. Mais on a trouvé quand même une bonne solution avec mon expert comptable, qui était donc, comme je décidais de garder le commerce, par contre, j'ai décidé de vendre ma maison, parce que c'était trop grand, c'était une maison. Donc il n'y avait aucun souci quoi par rapport à tout ça, puisque la maison valait beaucoup plus que le prêt relais que j'ai fait pour 2 ans.
Et votre activité,
donc, j'avais 2 ans pour vendre cette maison, mais ça m'est, je veux dire, on m'a pas laissé le temps quoi. Au bout d'un an, on a décidé de la vendre aux enchères.
Oui, donc vous aviez pris des mesures effectivement. Alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement la banque, qui est un acteur économique, qui a vocation à aider, je dirais, les entreprises, hein, les entrepreneurs à se développer par l'investissement, etc. Dans votre cas, eh bien, il semble qu'elle a joué tout à fait l'inverse.
Hein, puisque j'étais client depuis 12 ans, quoi.
Voilà.
Ils connaissaient bien, quoi.
Donc vous aviez effectivement une activité qui avait une certaine stabilité, hein, puisque 12 ans, c'est...
J'ai tenu 12 ans, donc avec des hauts et des bas, comme
bien
tout
sûr.
Le monde. Hein.
Oui.
La crise financière n'a pas rangé les choses, mais je me suis battue, quoi.
Oui. Et donc, à un moment donné, est-ce que cette banque vous a proposé des solutions? Parce que quand on a des difficultés de trésorerie, il y a peut-être des aménagements, des services qui sont rendus. Est-ce que ça a été le cas,
non,
à un moment donné?
Non, aucune solution. Donc, la simple consigne que j'ai eue, j'ai pas droit à un débit. Je parle bien du compte professionnel. Même pas 1 euro.
Mmh.
Donc, aller travailler sans débit aujourd'hui. Donc c'était un peu dur, mais je me suis débrouillée pour pas être dans le débit. Et je n'étais pas dans le débit quand ils m'ont fermé les comptes.
Ouais. Donc si
les preuves sont là, je veux dire, tout est sur document, hein, évidemment.
Donc si je comprends bien, en fait, la banque vous a pris de court un peu, puisque vous étiez dans une démarche de rétablissement, puisque vous vouliez vendre
bien
votre
sûr.
Maison.
Mmh.
Vous laissiez un temps avec le prêt-relais dont vous parliez, je pense. Il était sur combien de temps, ce prêt-relais?
Sur 2 ans.
Sur 2 ans, donc vous laissiez effectivement une période de 2 ans pour redresser la situation et vendre le bien. Et là, la banque vous a en fait sabré et vous a empêché de vous rétablir.
Complètement, alors qu'ils n'avaient aucun risque, parce que j'avais quand même une maison qui était estimée à 230 000 euros à peu près. Hein. Donc 120 000 euros, 230 000. J'avais décidé entre-temps, donc j'ai arrêté mon commerce pour ne pas faire des dégâts, parce que vous pensez bien.
D'accord.
Que tout le monde s'y est mis après. Hein. Pièce faible, donc tout le monde a récupéré. Que j'ai réussi à vendre la maison tout de suite un mois après.
D'accord.
J'avais des acheteurs le 1er novembre 2009.
Mm-hmm.
Mais c'était plus possible, donc ça a freiné, l'arrêt de la procédure concernant la vente forcée. Donc il fallait se battre pour ça aussi. Et donc après, c'est vrai que enchaînement sur enchaînement, donc tout le monde s'est nourri du fruit de cette maison.
Mm-hmm.
Donc ce qui fait qu'il ne me restait plus rien.
D'accord.
Donc harcèlement des huissiers. Enfin,
votre situation actuelle, quelle est-elle?
Donc ma situation actuelle, au bout d'un an, donc je me suis décidée à demander le RSA le mois d'octobre l'année dernière,
mm-hmm.
après quelques mois sans revenus,
mm-hmm.
et donc je suis au RSA, donc je suis hébergée actuellement, donc heureusement qu'il y a la solidarité familiale pour certaines personnes, j'ai eu la chance, sinon je serais dans la rue, et voilà, donc maintenant ma grande question, donc je me suis retournée vers effectivement le Crédit Alsace, pour demander conseil, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'il faut bien que je continue ma vie, puisqu'il y a toujours cette instance qui n'est pas décidée, je ne sais pas combien de temps ça va mettre.
Mm-hmm.
Est-ce que j'ai fait un dossier d'insolvabilité notoire au niveau du tribunal?
Mm-hmm. D'accord.
Donc pour pouvoir retourner dans une activité, quoi.
Oui. Alors juste avant de répondre à votre question, juste une précision, donc vous étiez en entreprise individuelle?
Oui, c'est ça.
Donc dans ce cas-là, effectivement, le patrimoine de l'entreprise et celui de l'entrepreneur sont confondus sur le plan juridique. Hein. Donc, vous êtes tenu effectivement à toutes les dettes de votre entreprise et du fait de la déchéance qui a dû être prononcée certainement par les banques, vous avez dû payer effectivement l'intégralité des sommes réclamées.
Voilà. Donc au niveau de l'entreprise, il n'y avait pas de dette, il n'y avait plus de créance.
D'accord.
Payé, donc c'était uniquement ce prêt relais qui
payait tout. D'accord.
Et donc simplement pour vous dire que comme j'avais un compte privé, il y a confusion au niveau de mon compte privé et personnel.
D'accord.
Professionnel, excusez-moi.
Oui. D'accord. Voilà. Alors, au niveau de la faillite civile, peut-être Katina Ebauer peut nous apporter une réponse.
Oui, dans la faillite civile, là, de toute façon...
j'ai pas bien compris votre question.
Oui, je disais que j'allais passer la parole à Maître Neubauer pour vous répondre sur la faillite civile.
Bon, pour la faillite civile, c'est relativement simple à faire, mais bon, d'après ce que j'ai compris, vous avez une instance en cours devant le TGI de Strasbourg pour la responsabilité de la banque.
Oui, c'est ça.
Donc, qu'est-ce que vous avez actuellement, en gros, encore en solde de dette?
Donc, ce qu'il y a, c'est surtout quand la maison a été vendue, oui. Donc il y a eu la purge
des hypothèques et compagnie,
beaucoup de frais. Et donc il y a eu les impôts qui sont restés en 2009, que j'ai pas pu régler. Ouais. Évidemment, tout ce qui est état est parti. Mm-hmm. Donc, il y a plus une soule que j'avais convenue avec mon ex-mari.
D'accord.
C'est lui qui a tout eu.
Oui, créance alimentaire, oui, donc il l'a eu aussi.
Donc, j'ai rien touché, enfin, je veux dire, personne n'a rien pu faire. J'ai même pas mis 1000 euros de quelque chose que j'ai construit depuis l'âge de 17 ans.
D'accord. Et je veux dire, il vous reste des dettes, donc à peu près quel montant?
Donc, il reste donc une soule. En fait, ce que je vais vous expliquer, le tribunal de grande instance de Strasbourg, on l'a saisi, bon, parce que ça se passait d'abord dans une autre juridiction plus petite. Et comme mon cas est tellement compliqué parce qu'il y a en procédure, donc effectivement, par rapport à mon ex-mari qui était lié, mais qui s'est complètement désisté, mais qui était quand même lié quand même à 12 ans de vie commune, quoi. Donc il y a ça, il y a plein de choses par rapport à la vente de mon commerce. Donc comme j'étais forcée.
Donc en fait, vous avez mis la responsabilité de la banque en cause. Vous avez mis
donc,
la responsabilité.
Ça s'est regroupé actuellement depuis octobre au niveau de Strasbourg, au tribunal de grande instance, mais on n'a toujours pas de date d'audience.
Vous n'avez pas de date d'audience, c'est-à-dire?
J'entends pas trop bien.
Quand vous dites que vous n'avez pas de date d'audience, c'est...
Non, pas.
Parce que
ce que je voulais vous expliquer, donc c'est vrai que quand j'ai décidé de prendre cet avocat rapidement pour arrêter la procédure pour la vente forcée, j'avais encore des revenus.
Oui.
Donc c'était au mois d'octobre l'année dernière. Et étant donné que j'ai plus de revenus, donc l'avocat, j'ai pu le payer une petite partie, donc ça coince aussi de ce côté-là.
D'accord.
Parce que c'est normal que cet avocat touche aussi ses honoraires. Donc là aussi, de ce côté-là, je suis assez... qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il veut bien continuer? Donc le dialogue est assez difficile, même s'il était très conciliant. Changer d'avocat, c'est assez compliqué quand même.
Changer d'avocat, ça va être délicat, puisque comme vous n'avez pas réglé l'ancien, il faudra avoir l'autorisation du bâtonnier pour le suivant pour continuer. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions.
Par contre, je
vous permets de... Oui, allez-y.
Je vous entends très, très mal.
Oui. Donc, vous m'entendez mieux, là?
Oui, là, ça va un peu mieux, oui.
Donc, je disais, changer d'avocat, ce n'est pas non plus totalement la solution, puisque de toute façon, l'ancien n'ayant pas été intégralement réglé, il vous faudra faire des démarches auprès du bâtonnier pour que le suivant ait l'autorisation de continuer.
Oui,
donc,
bien
je
ne
sais pas si c'est vraiment la meilleure solution. Moi, la question que je me pose, c'est que tout à l'heure, vous disiez, vous aviez une instance à Strasbourg qui est reportée, constamment reportée. Qu'est-ce que vous entendez par ça?
Disons, je ne vais pas dire le nom. Ça, c'est
non, surtout pas, non.
Et donc, mon avocat avait demandé que tout se passe, parce qu'il y a des... Là-dedans, il y a des...
Donc, en fait, il a demandé que ce soit rapatrié sur Strasbourg en invoquant des connexités et des jonctions. Et des connexités, pardon. D'accord.
Donc, on a gagné.
Oui, c'est logique.
Donc, depuis le 5 octobre, ça a été décidé comme quoi ça se passe à Strasbourg.
Ce qui explique que vous n'ayez pas encore de... Donc, c'est normal.
Et depuis, rien. Voilà.
Voilà, alors... Julie, alors concernant votre question sur la faillite civile, je pense qu'il serait important que Crésus Alsace, dans le soutien qu'on peut vous apporter, prenne contact avec l'avocat et fasse le point sur la situation, parce qu'il faut voir quelle stratégie est la plus adaptée à votre situation.
Bien sûr.
Parce qu'effectivement, il y a la question de la mise en responsabilité de votre banque, qui est déjà bien engagée.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il ne faut pas attendre effectivement le résultat de cette procédure pour ensuite...
Oui, bien sûr, je n'y attends plus, c'est quand même compliqué.
Voilà. Bon, il n'empêche que nos portes sont ouvertes, donc on vous accueillera.
D'accord.
Il y a monsieur le ministre, monsieur Loos, qui veut apporter une précision.
Oui, d'accord. Julie, j'ai pas de réponse immédiate à votre question, mais ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que aujourd'hui, avec la nouvelle loi, celle dont j'ai été le rapporteur, on peut garder sa résidence principale, même lorsqu'on est dans une procédure de surendettement. Et on a intérêt à aller le plus rapidement possible en procédure de surendettement, c'est-à-dire ce qui vous est arrivé et vos mésententes avec la banque, pourrait peut-être être évité aujourd'hui. Donc je fais
sûr.
Un peu la promotion de mon texte. Et autre sujet, on a aussi voté un texte qui sépare les biens professionnels des biens privés pour les personnes qui sont comme vous en entrepreneur. Et ce texte-là n'est pas encore complètement sorti du passage passage entre l'Assemblée et le Sénat, mais va entrer en vigueur également bientôt, j'espère.
Ouais,
donc ce sont deux choses que nous avons faites qui, dans votre histoire, auraient un petit peu simplifié. Maintenant,
oui.
C'est un petit peu simplifié. L'histoire aurait été différente, en tout cas.
Voilà.
Mais comme j'entends que vous êtes très entreprenante et très active, je vous souhaite de réussir vos prochaines entreprises.
Oui, bon, la décision, c'est vraiment, ça fait un an que je suis vraiment il fallait se reconstruire à tout point de vue, pensez bien, parce que bon, c'est quand même plus de 50 ans, c'est pas évident, de nouveau à l'extérieur.
Mais vous êtes une personne dynamique, Julie, et je pense que c'est déterminant, effectivement, pour bien rebondir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage.
Merci à vous.
Et puis donc, très bientôt
beaucoup.
À Crésus.
D'accord. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Crésus, nous avons un nouvel appel. Bonjour Christine.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer votre situation ?
Eh bien voilà, donc en 2008, mon beau-père est tombé malade et est hémiplégique de tout le côté droit. Donc nous avons dû nous occuper de lui, donc pour cela mon mari a pris sa retraite. Nous avons dû quitter un logement de fonction et trouver une maison adaptée donc à l'handicap de mon beau-père, ce qui nous a fait donc un loyer de 650 €, donc une perte déjà sur le salaire de mon époux dû à sa retraite, plus le loyer.
Oui, Christine.
Oui.
Oui, bonjour, Régis Salter de Crésus Alsace. Votre mari avait quelle activité?
Il était gendarme.
Il était gendarme. Mm-hmm. Et donc il y a une perte de ressources liée à sa retraite conséquente.
Oui.
Oui. De quel ordre de
environ 20... 300 euros.
300 euros, ce qui représentait à peu près en pourcentage, c'est difficile à dire. Mais c'était conséquent en tout cas.
Oui, c'est conséquent.
Tout à fait.
Les 300 euros plus les 650 € de loyer, oui, c'est conséquent.
D'accord, parce que vous n'aviez pas le loyer à payer auparavant, c'est ça?
Non.
D'accord, oui, effectivement, là on comprend bien votre situation. Et donc le fait de pouvoir accueillir votre beau-père, ça a été effectivement une charge importante également, hein ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Et donc la situation s'est dégradée peu à peu, c'est ça ?
Tout à fait.
Oui. Expliquez-nous alors un peu mieux le cheminement.
La situation s'est dégradée parce que, bon, en plus, on a prêté de l'argent à notre fils cadet.
Oui.
Qui était en grande difficulté lui aussi.
Mmh.
Bon, il avait promis de nous rembourser petit à petit, ce qui est une chose qu'il n'a jamais fait. Donc nous, on a fait des crédits pour le renflou et lui.
Oui.
Et puis maintenant, c'est nous qui n'avons plus rien.
D'accord. Alors quand vous dites que vous n'avez plus rien, c'est-à-dire que vous avez des revenus
mon mari a sa retraite.
Oui.
Moi, j'ai une pension d'invalidité et une rente d'invalidité.
D'accord.
Mais tout ça passe dans le découvert qu'on a à la banque.
Oui.
Et donc, à la fin du mois, nous n'avons même plus de quoi acheter, enfin, nous n'avons pas de quoi nous acheter à manger, ni remplir notre cuve de fioul.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres créances que votre découvert bancaire ?
Oui, j'ai des crédits, bien sûr. Oui, les crédits que j'ai été obligée de faire pour mon fils.
Mmh, mmh. D'accord. Et vous avez à peu près estimé le montant global de ces crédits ?
Oui, ça s'estime à 47 000, quoi.
47 000 euros, d'accord. Oui. Et là, actuellement, votre capacité de remboursement, vous l'avez à peu près estimée. En fin de mois, vous arrivez... Est-ce qu'il y a des impayés au niveau des crédits ?
Au niveau des crédits, oui, il y a des impayés, oui.
D'accord. Et donc, les créanciers se sont manifestés auprès de vous ?
Oui, j'ai un créancier qui s'est manifesté et qui m'a menacé de m'envoyer un huissier pour estimer les biens de la maison.
D'accord. Vous êtes locataire, propriétaire, locataire.
On est locataire.
Locataire, hein, d'accord.
Oui.
Et donc, comment vous vivez cette...
Cette situation, nous, on la vit très mal. Enfin, moi, je suis en dépression nerveuse sévère.
Mm-hmm.
Et mon mari, c'est pas mieux. Disons qu'il le montre moins, mais bon, c'est pas mieux.
Mm-hmm. Et quels sont les moyens que vous avez essayé de mettre en œuvre pour enrayer, je dirais, cette situation de surendettement ? Parce que c'est du surendettement.
Tout à fait. Écoutez, on s'est adressé à l'association Crésus.
Oui. Et je dirais, au niveau de votre budget, etc., vous avez pu essayer de réguler des choses. Il y avait des... Est-ce que les choses sont tellement tendues qu'il n'y a rien à faire ?
Non.
Oui.
Non, non.
D'accord. Donc, dans votre situation, effectivement, le, La solution, c'est, ça serait effectivement un dossier de surendettement. Hein.
Tout à fait.
Oui. Donc peut-être que Maître Neubauer ou.
Oui, moi, c'est sur la menace de l'huissier tout à l'heure que j'ai réagi. Votre créancier, quand vous dites qu'il s'est manifesté, c'est-à-dire c'est une boîte de recouvrement?
Oui.
Oui, bon. Alors laissez-les causer. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on ne peut pas comme ça vous envoyer un huissier venir estimer vos biens dans votre maison. Un huissier ne rentre chez vous que s'il a une autorisation du tribunal le faisant. Hein. Donc on ne va pas demain venir dire toc toc, bonjour, je suis l'huissier, je viens estimer vos biens. Si vous le laissez rentrer, alors là oui. C'est autre chose. Mais tant qu'il n'y a pas de décision de justice, donc ne vous inquiétez pas, ça ce sont des paroles en l'air. Par d'accord. contre, à partir du moment où vous avez des recommandés, des actes d'huissier qui vous sont envoyés...
Non, j'ai des coups de téléphone.
Oui, bah... Oui, ça doit. Enfin bon, je dirais rien sur les boîtes de recouvrement parce que là, ça va pas être très joli ce que je vais dire, donc on va se taire là-dessus. Par contre, dès que vous avez des recommandés, des choses comme ça, c'est ça qui doit vous alerter, c'est ça qui doit vous faire constituer votre dossier et effectivement, c'est ça qu'il faut communiquer à Crésus. Hein. Mais d'accord. rassurez-vous, on va pas demain venir toquer à votre porte en disant bonjour, je suis ici, je vais estimer vos biens. Ne vous inquiétez pas pour ça.
D'accord. Je vous remercie.
Alors peut-être que Monsieur le ministre voulait apporter des précisions.
Oui. Oui, bonjour madame. En fait, quand je vous écoute, je me demande si, dans votre cas, la faillite civile ne serait pas justifiée. C'est-à-dire que vous avez des dettes qui sont très très difficiles à rembourser, et donc il faut un jour faire le constat, mais enfin, c'est un peu la question qu'on vous posait tout à l'heure. Est-ce que vous avez une capacité de remboursement? S'il
non,
y a une même petite... C'est cette capacité de remboursement qui permettra de renégocier, de rééchelonner. C'est ce que devrait faire la commission de surendettement, donc de la Banque de France, qui doit vous aider à vous mettre à l'abri des créanciers qui vous courent après et vous faire un plan de rééchelonnement de la dette. Oui. Mais il faut que vous ayez une petite capacité de remboursement. Oui. Si vous n'en avez vraiment aucune, dans ce cas-là, y a une autre procédure, mais peut-être vous avez quand même une capacité de rebondir... Même légère. Enfin, ça, c'est à examiner avec Crésus. Ils vont vous aider à faire ce calcul.
D'accord.
Voilà. Christine, est-ce que nous avons bien répondu à vos questions? Tout est clair?
Oui, tout est clair, oui.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage.
Mais je vous en prie.
Au revoir.
Je vous remercie et bonne journée à tous.
Merci à vous.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. La radio qui vous aide.
Nous avons un nouvel appel sur Radio Crésus. Edwige, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre situation?
Ben voilà, en fait, je suis maman de 3 enfants et séparée. Et j'avais contacté un crédit avec mon ex-concubin. Et voilà, après tous ces problèmes, il a décidé de ne plus payer le crédit. Donc actuellement, je suis un peu... harcelé par les huissiers par rapport à cette situation, quoi. Et déjà, je ne travaille pas. J'étais en congé parental. J'ai été licenciée durant ce congé parental. Donc, voilà un petit peu.
Oui, bonjour Edwige, Régis Salter de Crésus Alsace. Donc, vous êtes effectivement femme seule vivant avec 3 enfants.
Oui, c'est ça.
Et donc, ce crédit que vous avez souscrit avec la personne... séparé. Donc, oui. Il était de quel montant, ce crédit?
Il était à peu près de 15 000 euros.
15 000 euros. Et aujourd'hui, le capital reste en dû?
Là, actuellement, j'ai reçu le courrier des huissiers hier. Il est à 12 500 euros maintenant.
12 500 euros.
Avec
hein.
les frais, madame?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Avec les frais, donc on n'a pas le capital reste. Et sur cette feuille, si jamais vous l'avez sous la main, il y a marqué quelque part principal. C'est quoi le chiffre qu'il y a derrière principal?
Un instant, il faut que... Voilà, je pense que le courrier n'est pas bien loin. Je vais vous lire ça.
Alors c'est vrai que quand on s'engage comme ça dans le cadre d'un crédit...
Voilà. Principal, c'est 10 381
ouais.
euros.
Oui, c'est encore énorme, 10 300.
D'accord. Et là, votre capacité, effectivement, ne vous permet pas de faire face à cette...
Tout à fait. Vu que je suis, on va dire, au chômage actuellement, parce que j'ai déposé le dossier pour... en tant que demandeur d'emploi.
D'accord.
Donc actuellement, je ne perçois que les prestations familiales.
D'accord. Et vos enfants, donc vous nous avez dit que vous en aviez 3, ils ont quel âge?
L'aîné aura 8 ans ce mois-ci, dans quelques jours. La deuxième a 5 ans et le dernier a 3 ans.
D'accord. Donc 3 ans. Donc vous étiez en congé parental auparavant.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça, oui.
Ok. Et donc c'est la seule dette que vous ayez cette dette-ci.
C'est pas la seule dette, parce que bon, j'ai déjà un dossier de surendettement que j'avais déposé il y a pas mal de temps. Oui. J'avais eu droit à un moratoire. Et normalement, je pense que d'ici le mois d'avril ou mai, je devrais refaire un autre dossier par rapport à ma situation, quoi. Parce que les 2 ans bientôt sont écoulés, en fait. Les 24 mois sont écoulés.
D'accord. Donc pour le mois de mai 2011, normalement, il faudrait effectivement que vous ayez, bien avant même, hein, déposer un nouveau dossier, enfin, pour la Banque de France, pour faire état de votre situation. Et demander effectivement peut-être à inclure cette créance-là.
Oui.
Alors comment ça se fait qu'elle n'ait pas été, que vous ne l'ayez pas incluse dans votre moratoire?
C'est une dette qui m'était complètement sortie de la tête, vu que mon ex-concubin payait normalement le dit crédit. Donc voilà, je n'y ai pas pensé. Et c'est une erreur de ma part. Voilà, j'aurais dû... Bon, il remboursait le crédit, donc j'ai pas pensé à ça, quoi. Et puis voilà, c'est un argent qu'on a été contracté, un crédit qu'on a été contracté. Bon, c'est lui qui s'en est occupé, en fait. Donc, pour moi, c'était juste l'aider à obtenir le dit crédit. Et puis, de ce qui a été fait de l'argent, je ne m'en suis pas préoccupé, quoi.
D'accord. Et la Banque de France n'était pas au courant de la commission de surendettement, n'était pas au courant de ce crédit?
Non, du tout.
Et elle est toujours pas aujourd'hui.
Non.
Donc il faudra être vigilant quand vous allez redéposer le dossier, hein,
oui,
en expliquant bien les conditions pour lesquelles ou les raisons pour lesquelles vous n'avez pas effectivement mentionné cette dette la première fois, en essayant de prouver au mieux votre bonne foi, hein, parce que c'est important, parce que effectivement on pourrait considérer qu'il y a une situation des dettes qui n'ont pas été présentées, hein, lors du premier dossier.
Oui.
Et ça peut effectivement, ça pourrait vous empêcher de bénéficier de la procédure. Hein. Donc il faudra être bien vigilant sur la manière de motiver votre dossier. Et je pense que les choses iront bien ensuite. Hein.
D'accord.
Maître Neubauer, vous voulez apporter une précision?
Non, j'ai pas de précision à apporter, puisque vous l'avez apporté en disant qu'il fallait absolument bien motiver le fait que cette dette n'ait pas été dans le premier plan, quoi. Donc, vous viendrez à Crésus si vous aiderons à faire ça.
Monsieur le ministre, monsieur Hulot, c'est avec nous.
Oui, moi, j'ai été le rapporteur de la loi sur le crédit à la consommation et nous avons eu des gros débats sur des situations où, dans un couple, quelqu'un fait un prêt et c'est l'autre qui finit par le rembourser. Comment expliquez-vous que votre concubin ne rembourse pas?
Oui, en fait, lui et moi, actuellement, on est dans des problèmes. On est séparés, quoi. On est dans des problèmes. Et lui, il est parti dans cette optique que, voilà, il me nuit, en fait. C'est pour me nuire, parce que, voilà, il est en mesure de rembourser le crédit, mais il n'a pas envie de le faire, en fait, parce que il a été vu par mes amis, ses amis qui ont essayé de le raisonner par rapport à la situation, en lui expliquant, voilà, t'as 3 enfants avec cette femme, il faudrait que tu rembourses. Il a dit que, voilà, il ne remboursait pas, en fait, c'était pour me faire savoir que la vie était dure, pour me punir, en fait, en somme, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il veut pas le rembourser.
Mais qu'est-ce qu'il a fait de l'argent?
Et de l'argent, il a acheté le terrain en Afrique. Il a acheté le terrain en Afrique, il a commencé les constructions. Et là même, durant cette période où on était dans les problèmes, c'est là où j'ai appris qu'en fait, le terrain qu'il avait acheté, il avait mis au nom de sa maman. Donc moi, de mon côté, je ne peux rien faire par rapport à cette situation, quoi.
Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas l'auteur du prêt?
Non, pas du tout. Je ne suis que le co-emprunteur, en fait.
Oui, mais la banque doit se retourner contre lui.
Normalement.
Et il a réussi à convaincre la banque qu'il fallait qu'elle se mette contre vous.
En fait, le problème, c'est qu'au départ, on n'arrivait pas à avoir son adresse. Il s'était arrangé à pas donner son adresse. Finalement, on l'a eu son adresse parce que je suis allée au tribunal. J'ai été aidé par le Crésus. Pour essayer de demander un délai par rapport à cette dette. Et bon, la réponse, elle est négative. Elle est arrivée qu'elle est négative. Donc, voilà, les huissiers ont son adresse à lui maintenant. Mais sauf que bon, j'ai pas mal de pression parce que l'étude de l'huissier se trouve à Strasbourg. Donc, c'est moi qu'on accule vraiment beaucoup plus.
Bon, alors, quoi. Edwige, oui. Vous aviez signé le crédit ou pas?
Le crédit, si, je l'ai signé.
D'accord. Donc vous étiez effectivement co-débitrice et c'est à ce titre que la banque se retourne justement, je dirais, hein, c'est légalement et justement, contre vous aussi. Hein. Donc, c'est, voilà. Donc, il y a une base légale qui est tout à fait valide. Hein. Alors, juste une précision. Donc, vous êtes une mère seule, vous avez effectivement trois enfants en bas âge. Vos ressources sont très, sont minimes, en fait. Hein.
C'est ça, oui.
Donc, les risques pour vous, je dirais, au niveau des saisies, par exemple, sont très limités.
Hein? Oui, sont limités parce que bon, j'ai plus ou moins qu'on a dans une maison, quoi. Je veux dire une
la téléviseur. Oui, mais même la loi prévoit effectivement de vivre dans des conditions dignes. Oui. Et à ce titre, au niveau des quotités saisissables, au niveau des salaires par exemple ou des indemnités Pôle emploi, il y a un minimum que vous devez conserver.
Oui.
Et donc pour ça, vous êtes protégé, je dirais. Et au regard de votre situation, et je ne pense pas que vos revenus soient si importants qu'on puisse vous en prendre beaucoup. Hein. Donc il faudrait qu'on fasse le point effectivement pour calculer cette quotité saisissable et vous rassurer sur l'avenir aussi de votre situation. Hein.
Oui,
d'accord.
Oui, d'accord.
Voilà, merci Edwige pour votre témoignage.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir et bonne journée à vous.
Merci.
Crésus, la radio qui vous aide.